Le journal, Sarah Guibaudot. Bonjour Sarah.
Bonjour. L'errance sans issue des migrants à Calais. Nous irons avec Mathilde Dehimy dans l'un des deux nouveaux centres d'accueil qui doit tenter d'accélérer les procédures. C'est la sixième fois que des militaires de l'opération Sentinelle sont pris pour cible. L'état des six soldats blessés hier matin à Levallois-Perret n'inspire plus d'inquiétude. Alors Sentinelle, effet dissuasif ou paratonnerre, les soldats préfèrent accomplir leur mission sans trop d'état d'âme. Nous entendrons cette parole rare. Où sont passés les œufs contaminés? Le gouvernement lance finalement une enquête sur tous les industriels de la filière. À 8h20, votre invité, Pierre, est l'ancien ministre de l'Agriculture.
Stéphane Le Foll, député socialiste de la Sarthe, avec lui aussi bien sûr des questions concernant l'avenir du Parti Socialiste et puis son opinion sur les 100 premiers jours de la présidence Macron.
Ça bouchonne dans les caisses de retraite. Des départs plus nombreux cette année, à moins que ce soit l'effet des suppressions de postes. Les affrontements redoublent de violence en Centrafrique. Les groupes armés continuent de faire la loi. Il avait affolé les avions sur l'aéroport de Nantes. L'homme qui avait laissé un brouilleur dans sa voiture a écopé de 2000 euros d'amende. Quand un Marseillais se plaint des décharges sauvages, vidéo à l'appui, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et puis pour les vacances, le château d'Amboise se met à porter des plus petits.
France Inter.
Le gouvernement veut à tout prix éviter qu'une nouvelle jungle se reconstitue à Calais. Des dizaines de personnes continuent pourtant d'arriver chaque jour, sans disposer ni de toilettes ni de douches, pourtant imposées par le Conseil d'État le 31 juillet. D'ici la fin de la semaine, promet la préfecture. L'un des deux nouveaux centres d'accueil annoncés est en tout cas opérationnel aujourd'hui, installé dans l'abbaye de Belleval à Troisvaux, où vous vous êtes rendu, Mathilde Dehimy. Il doit tenter d'accélérer l'examen des demandes d'asile.
Les premiers migrants sont arrivés il y a 2 jours. Le temps de prendre ses marques, se doucher aussi alors qu'il n'y a pour l'instant plus de sanitaires à Calais. Thierry Devim, le responsable, demande à son équipe de l'association La Vie Active d'établir une première liste.
1er janvier 88.
Nationalité érythréen.
C'est aussi pour nous avoir une fiche nominative. Et si on doit entamer derrière les récits de vie, qu'on ait déjà un minimum de renseignements concernant les personnes.
Il faut très vite établir un dossier pour la toute première étape dans la demande d'asile. Plus que quelques jours au lieu de 2 mois d'attente habituellement. Ibrahim Tchadien se dit confiant car il parle un peu français.
Je suis là pour demander l'asile.
Il y a beaucoup de monde qui veut rester ici. Mais il ne parle pas français. Tout le monde dit le français est dur, le français est dur.
Alas, éthiopien a lui renoncé à son rêve d'Angleterre.
Avant, on nous avait dit que seule l'Angleterre s'intéressait aux migrants, qu'ils nous donneraient tout ce dont on avait besoin. Mais depuis 2 mois que je suis en France, j'ai vu qu'ici aussi, on faisait attention à nous.
Un délai de traitement raccourci et au bout, l'enclenchement de la demande d'asile ou le renvoi vers l'Italie, premier pays européen du périple, ou vers le pays d'origine. Troisvaux, Mathilde Dehimy, France Inter.
L'incendie qui s'est déclenché hier dans l'Hérault a parcouru 500 hectares de garrigues et de pinèdes. Il est en régression, mais toujours sous haute surveillance. 400 vacanciers ont été évacués par précaution d'un camping de Villeveyrat, au nord de Sète. L'homme qui a foncé hier matin sur des soldats à Levallois-Perret n'a pas pu être interrogé encore. Il a lui-même été blessé par balle. Après avoir résisté à son interpellation, 5 heures plus tard, au niveau de la ville de Marquise, dans le Pas-de-Calais, 300 policiers étaient mobilisés pour traquer la voiture. En fuite. Ils ont même provoqué un embouteillage sur l'autoroute A16 pour tenter de l'arrêter en douceur, en vain. Le parquet antiterroriste a lancé des perquisitions au domicile du suspect dans le Val d'Oise et dans son entourage, mais les premiers éléments de l'enquête accréditent plutôt la thèse d'un acte isolé. Cet Algérien de 36 ans était inconnu des services de renseignement. 6 soldats du 35e régiment d'infanterie de Belfort en poste à Levallois ont été blessés. C'est la 6e attaque qui vise délibérément des militaires de l'opération Sentinelle, mise en place après les attentats de janvier 2015, qui rouvre le débat sur sa pertinence et son format actuel. Thibault Lefebvre avait pu rencontrer il y a quelques jours certains de ces soldats, loin de leur famille, jeunes souvent. Ils remplissent leur mission avec abnégation, même s'ils ont bien conscience d'être devenus des cibles.
3 ans dans l'armée et première mission sentinelle pour le sergent Olivier. Pendant 2 mois, ce mécanicien de l'armée de l'air a patrouillé dans les aéroports parisiens, pas toujours serein.
Ça fait un peu peur, hein. Mais c'est sûr qu'on n'est pas des super-héros non plus. Hein. Mais après, si je peux éviter de le montrer, c'est toujours mieux vis-à-vis de moi, de mes camarades et bien de la population. On n'est pas seul non plus. Je sais que j'ai mes 2 camarades qui veillent sur moi. et vice-versa, si eux ils ont un problème, je serai là pour eux.
Une solidarité et un risque qu'éprouve très régulièrement le caporal-chef Julien. Depuis le début de l'opération Sentinelle, il y a plus de 2 ans et demi, il a passé près d'un an à patrouiller dans les rues des villes françaises.
Je préfère que ça soit moi qui soigne ici plutôt que ce soit des personnes civiles ou des enfants. C'est un prix à payer, mais j'ai choisi de payer ce prix. Le plus usant, c'est surtout la répétition. Par exemple, lors d'un déploiement, c'est souvent les mêmes zones. On a l'impression de voir les mêmes rues, les mêmes bâtiments des centaines de fois. Mais c'est comme ça, on est obligé.
Une usure des troupes qui devrait être prise en compte par le président de la République. Emmanuel Macron a en effet promis de repenser le dispositif Sentinelle d'ici octobre.
Des milliers de nouveaux retraités attendent de pouvoir toucher leur pension. 20 000 dossiers seraient en attente à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Les agents sont débordés. Syndicats et directions divergent sur les raisons de cet embouteillage, Maxime Debs.
Bienvenue à l'assurance retraite. Le temps d'attente est d'environ 10 minutes.
Patience et diplomatie si vous voulez quelqu'un au bout du fil selon les syndicats. Pas le choix, en 10 ans, le nombre d'agents à la CNAV a diminué de manière conséquente. Aujourd'hui, tout est informatisé. Les assurés encouragés de plus en plus à passer par Internet pour déposer leur dossier, ce qui ne règle rien pour Alexandre Tétard de la CGT.
Le problème, c'est que la direction avance la retraite en ligne comme une solution, mais on a fermé, nous, tous nos points d'accueil. Et l'assuré éprouve de nombreuses difficultés pour joindre un technicien dans des délais raisonnables pour avoir une réponse précise sur l'état d'avancement de son dossier.
Résultat, d'après les syndicats, ce sont 20 000 dossiers qui seraient actuellement en suspens rien qu'en Île-de-France. Un chiffre vivement contesté par la direction. Pascal Émile, directeur délégué de la CNAV, l'admet. Oui, la Caisse rencontre quelques difficultés actuellement, mais pour des raisons tout autres.
Depuis le début de l'année, on a un niveau de dépôt, de demande de retraite qui s'est largement accéléré. Les effets d'annonce des réformes de retraite font que les gens demandent plus précocement, en quelque sorte, leur demande de retraite.
Et ces tensions ne touchent pas uniquement Paris. À Rouen, Marseille, pareil. Jusqu'à l'an dernier, la CNAV ouvrait 8 000 dossiers de retraite par mois. Le rythme est passé à 10 000 cette année. La Caisse s'engage d'ailleurs à ce que tous les dossiers soient traités dans les temps, à condition toutefois d'avoir fait votre demande au moins 4 mois. À l'avance.
Le ministère de l'Agriculture a finalement lancé hier une enquête nationale chez tous les fabricants de produits à base d'œufs, soit près de 80 établissements. Il estime que les produits contaminés au fipronil expédiés en France devraient être identifiés d'ici la fin de la semaine. Heureusement, certaines entreprises ont pris les devants, comme cette société de Lanoué, Brigitte Hugues.
L'entreprise du Morbihan a spontanément appelé la direction départementale de la protection des populations. Elle venait de recevoir un lot de 18 palettes, soit 295 000 œufs en provenance d'un éleveur belge. Éleveur dont la production s'est révélée contaminée par l'insecticide. La société Future Œuf casse les œufs pour les distribuer aux fabricants de biscuits et de pâtisseries. Après enquête des services vétérinaires, les lots concernés ont été identifiés. 12 palettes d'œufs ont été consignées, mais 6 autres palettes ont été transformées en œufs liquides prêts à l'emploi et une partie commercialisée. Les premières analyses effectuées chez un client indiquent des seuils de contamination très faibles, selon la préfecture du Morbihan, n'entraînant pas de toxicité, mais d'autres analyses sont en cours. Brigitte Hugues, France Bleu Armorique pour France Inter.
La crise du fipronil tourne au règlement de compte européen. La Belgique et les Pays-Bas se renvoient la responsabilité de n'avoir pas donné l'alerte plus tôt. Le ministre français de l'Agriculture, Stéphane Travert, souhaite que la coopération se passe mieux à l'avenir et compte en parler au Conseil européen informel de l'agriculture à la fin du mois.
Il est 8h09, c'est le journal avec Sarah Guibaudot. Sarah, l'escalade verbale se poursuit entre les États-Unis et la Corée du Nord.
Le chef du Pentagone a appelé Pyongyang à stopper sa course aux armes nucléaire qui pourrait mener à la fin de son régime. La Corée du Nord répond que Donald Trump est un gars dépourvu de raison, je cite, avec qui seule la force absolue fonctionne. Pyongyang menace de tirer 4 missiles à proximité de l'île de Guam dans le Pacifique. La Centrafrique est à nouveau au bord de la guerre civile. Ces dernières semaines, les violences ont fait une 60aine de morts, dont 6 volontaires de la Croix-Rouge. Un haut responsable des Nations Unies alerte même sur des signes avant-coureurs de génocide. Moins d'un an après le désengagement des forces françaises de l'opération Sangaris, rien n'est réglé, Olivier Poujade.
Si la capitale Bangui semble épargnée, le reste du pays se retrouve totalement livré aux mains d'une multitude de groupes armés avec toujours deux bannières. D'un côté, les anti-Balaka à tendance chrétienne, de l'autre, les Séléka à majorité musulmane. Une guerre de territoire pour contrôler les richesses du pays, notamment le trafic de diamants. Une guerre opposant même parfois des bandes censées appartenir au même camp. Depuis le départ des forces françaises de Sangaris, il y a moins d'un an, ce sont les 12 500 soldats de la MINUSCA qui sont chargés de stabiliser la région. Et d'après l'écrivain journaliste Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique, le cas centrafricain illustre bien l'impréparation des casques bleus dans ce type d'exercice.
Tous les casques bleus des Nations Unies, la grande majorité, ce sont des pays qui n'ont pas un rond, et en fait des Népalais, des types sur place, ils n'ont même pas 3% de ce que leur pays récupère des Nations Unies. Il faut des opérations de maintien de la paix avec des policiers, avec des gendarmes, et pas avec des jeunes militaires qui sont pas équipés, qui savent pas faire et qui sortent pas de leur camp. Hein. C'est le problème en Centrafrique. Hein.
Depuis le début de l'année, 9 de ces soldats de l'ONU sont morts en Centrafrique. Des casques bleus livrés à eux-mêmes. À Bangui, les désaccords politiques entre le président Touadéra et le chef de l'Assemblée, Karim Mekasoua, ont laissé la voie libre aux groupes armés. Une douzaine d'entre eux s'étaient pourtant engagés il y a quelques mois à déposer les armes.
Au Kenya, l'opposition rejette les résultats provisoires de la présidentielle qui donne le sortant Kenyatta largement en tête. Des affrontements ont fait 4 morts hier. La police a tiré à balles réelles dans un bidonville de Nairobi. En Israël, Benjamin Netanyahou se retrouve à nouveau sous une forte pression judiciaire. Le Premier ministre est visé par 2 enquêtes pour corruption. Lui a dénoncé hier devant des militants une campagne de la gauche et de la presse visant à le renverser par un putsch.
8h11, Sarah Guibaudot, 2000 euros d'amende pour avoir perturbé le trafic sur l'aéroport de Nantes.
Le 20 avril, certains avions s'étaient retrouvés cloués au sol. Leur système de navigation GPS affolé en cause. Un petit brouilleur laissé dans une voiture. C'est son propriétaire qui a donc été condamné hier par le tribunal correctionnel de Nantes. Il utilisait un système illégal en France qui permet de ne pas être tracé et l'avait laissé tout près des pistes sans imaginer les conséquences le lendemain matin, Audrey Dumain.
Oui, à ce moment-là, ce cadre commercial Rochelet s'est déjà envolé pour l'Afrique. Il part en voyage d'affaires. Sa voiture est garée sur le parking de l'aéroport, tout près des pistes, et il a laissé brancher son brouilleur à l'allume-cigare. Mais ce que cet homme ne sait pas, c'est que son appareil fonctionne même lorsque le moteur de la voiture est coupé. Il produit donc des fréquences qui, dans les cockpits, empêchent les pilotes d'utiliser leur GPS, pourtant indispensable avant de décoller. Il a fallu dépêcher des spécialistes pour remonter jusqu'au signal, retrouver le propriétaire parti en Afrique, le contacté pour enfin ouvrir sa voiture et tomber sur ce fameux brouilleur. Un appareil interdit sur le sol français, d'où cette convocation au tribunal. Le cadre a expliqué qu'il l'utilisait pour sa propre sécurité lors de ses voyages en Afrique. C'est son ancienne société qui lui en aurait procuré un. L'appareil lui a évidemment été confisqué.
Les habitants de Marseille circulent toujours au milieu des déchets selon les endroits. Ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas dû à une nouvelle grève des éboueurs. Plutôt au manque de civisme de certains qui prennent les rues pour des décharges sauvages. Ce qu'un humoriste de la ville a entrepris de dénoncer en vidéo sur Internet, Isabelle Dor.
Nous sommes dans le prolongement de la rue Capitaine Gès, donc ça commence là.
Jean-Yves Sayag est très en colère. Dans sa voiture, il longe les trottoirs de cette zone industrielle des quartiers nord, trottoirs débordants de déchets.
Ça va du carton à des grillages, des pneus, des habits, des gravats encore et encore. Vous avez de la peinture. Ça, c'est le premier endroit.
Et là, on arrive dans le boulevard Frédéric Sauvage.
Voilà, ça commence là. Alors, ça, ça a été déposé cette nuit. Du Ciporex, du placoplâtre, du BA10, du BA13. Voilà, ça, ce sont des professionnels qui ont déposé ça. Vous avez également de l'huile. C'est une entreprise qui est juste à côté, qui est venue le décharger tranquille devant tout le monde. Là, vous avez apparemment un carrossier qui vient décharger toutes les pièces destinées à aller à la poubelle.
Et ça continue sur 200 mètres encore.
Ben voilà. Et juste là encore, vous avez de l'amiante aussi. Je suis curé de voir ça.
Et sur ces vidéos, l'humoriste interpelle les autorités.
Bordel, on va attendre quoi pour mettre des caméras ?
Des caméras, il y en a quelques-unes depuis un an et les résultats sont là, rétorque Jean Montagnac, directeur des territoires à la métropole.
Depuis le début de l'année, on a trouvé 8 personnes à verbaliser et les dossiers sont déposés au procureur.
Qu'est-ce qu'ils risquent ?
Première amende, c'est 7500 euros. C'est récidive, alors là, c'est même la correctionnelle. Le gars peut se retrouver en prison.
Le problème, c'est que dès qu'une rue est nettoyée et surveillée, les indélicats déposent leur gravats dans les rues d'à côté. Marseille, Isabelle Dor, France Inter.
Encore en panne, le téléphérique de Brest. Pas de chance, cette fois c'est une cabine qui a été abîmée lors d'une opération de maintenance. Jeux de piste, chasse au trésor, atelier enfant. Les lieux culturels cherchent à attirer les familles. En ce moment, par exemple, les châteaux de la Loire font le plein. La météo aide aussi. Et au château d'Amboise, on s'adapte pour intéresser les plus jeunes à la Renaissance, Simon Soubieux.
Et pour les guides, il n'est donc pas question d'aligner des dates ou de rentrer dans des détails trop techniques. Là, ils s'en tiennent à un thème, les animaux à la cour de François 1er. Et les enfants ont l'air très intéressés.
Cet emblème,
c'est pas un hérisson, pas
un porc épique.
Mais oui, c'est le porc épique. Tu sais, ça représente quel roi ?
Louis XII.
Louis XII.
Tout au long de la visite, quelques activités ludiques, des cours de tir à l'arc comme le faisait Charles VIII, des devinettes sur les emblèmes de la Renaissance ou encore des chasses au trésor.
Alors, est-ce que vous avez trouvé la chouette ?
Oui.
Et elle est où la salamandre ?
Là.
Ah, elle est là la salamandre.
La visite dure 1h30, une durée que même les enfants n'ont pas vu passer.
Ouais, c'était intéressant. Ben, les animaux de compagnie, c'était marrant quand ils disaient qu'il y avait des lions, des rhinocéros, des girafes.
Mais les accompagnateurs sont aussi les bienvenus et même eux ont été charmés. Cette dame est venue avec ses deux petits-enfants.
Ça leur apprend à observer les choses qui sont cachées et nous de découvrir plein de choses aussi. Même si c'est familial, les grands-parents aussi apprennent des choses.
Paris réussi donc pour le château d'Amboise, intéresser les enfants à l'histoire ancienne. Alors Athéa, l'une des guides, nous fait part de sa recette miracle.
Par exemple, 19e siècle, j'ai cité des fois plusieurs fois dans la visite, je préfère dire il y a 200 ans, de donner plus d'images. Et puis aussi, les animations jouent beaucoup.
Et pour participer à ces visites en famille, c'est tous les jours à 15h30 au château d'Amboise, et ce, jusqu'au 26 août. Simon Soubieux, France Bleu Touraine pour France Inter.
Dégoûté, Christophe Lemaître, après son élimination hier soir en demi-finale du 200 mètres aux Mondiaux d'athlétisme à Londres, le sprinter français paye aussi un manque d'entraînement dû à des blessures à répétition cette saison. Allez les filles, les Françaises ont écrasé le Japon hier soir en ouverture de la Coupe du Monde de rugby féminin, 72 à 14. Elles ont marqué 12 essais sur la pelouse de Dublin.
C'était le journal de Sarah Guibaudot et voici la météo avec Caroline Osterman. Caroline, des orages, des nuages, de la pluie et des températures en baisse. Eh ben dites-moi avec ça.
En gros, on a du mauvais temps, Pierre. On appelle ça la goutte froide. C'est en fait de l'air froid qui reste en altitude, qui déstabilise la masse d'air et fabrique des cumulonimbus, c'est-à-dire des nuages et le cortège de pluie et d'orages. Actuellement, il pleut à Rouen. À Paris, ce matin, on est sous un ciel gris. Et cette grisaille concerne la plupart des régions du nord au sud-ouest. Sont épargnés les contours de la Bretagne, les côtes landaises et les régions de la Méditerranée jusqu'à Rhône-Alpes, où le soleil est présent.
Vous avez dit le mauvais temps, je me souviens. François Mitterrand, ça l'énervait quand on disait ça. Il disait, mais il n'y a pas de mauvais temps. C'est le temps, tout simplement. Caroline, mais le Mistral et la Tramontane se sont levés et les températures accusent le coup.
Oui, l'îlot de douceur de la Côte d'Azur est contrarié par le Mistral et la Tramontane. Ailleurs, la fraîcheur se fait sentir, seulement 7 à 15 degrés ce matin. Cet après-midi ne comptait pas plus de 16 à 23 degrés en général. Il manque 10 degrés pour la saison. Sur les Alpes du Nord, on attend les premiers flocons de neige et demain, on fait du ski.
Parfait. Caroline Osterman, la météo, la route maintenant avec Élise Thibault. Un accident, Élise, à Bayonne.
Eh oui, accident sur l'autoroute A63 dans le contournement de Bayonne en direction de l'Espagne. Les secours sont déjà sur place et vous ne roulez que sur une voie. Autre accident très gênant en ce moment dans le Gard, c'est sur l'autoroute A9 à mi-chemin entre Montpellier et Nîmes à hauteur d'Aigues-Vives. La circulation est bloquée au niveau de l'accident. Vous avez déjà une bonne demi-heure de bouchon.